Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Midi 30, ravie de vous retrouver pour le journal de la mi-journée.
Les vendeurs, ils sont contents, ils vont faire leur métier enfin, hein, parce que rester chez soi à la maison, faire du confinement et en activité partielle, c'est pas la vie de chacun d'entre nous.
Comme ils étaient impatients et comme ça se comprend d'accueillir de nouveau des clients à un mois de Noël, librairies, salons de coiffure, grands magasins, ils ont tous rouvert ce matin. Et nous verrons comment ça se passe à la Défense pour respecter le protocole sanitaire. Nous ferons aussi un premier bilan avec Romain Mullier, co-président de la Fédération des commerces spécialistes des jouets. Manifestation sous haute tension cet après-midi à Paris contre la loi de sécurité globale. Le préfet de police demande aux policiers de tenir la ligne républicaine jusqu'au bout, alors qu'Emmanuel Macron est sorti de sa réserve hier. Le président qualifie d'inacceptable l'agression du producteur Michel Zecler. Il parle d'image de la honte et veut une police exemplaire avec les Français et des Français exemplaires avec les forces de l'ordre. Nous en parlerons avec mon invité, le sociologue Michel Vigiorca. L'actualité sportive avec le PSG qui reçoit Bordeaux à huis clos, mais vous l'entendrez pas sans ambiance. La météo avec un temps toujours instable près de la Méditerranée. Année, surtout sur les Pyrénées-Orientales et la Corse, nous dira Valérie Darmon. Et puis, vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Il y a 35 ans, Coluche lançait sur les ondes d'Europe 1 son appel pour les Restos du cœur. Appel plus que jamais d'actualité alors que les Français sont 8 millions à avoir besoin de l'aide alimentaire. Beaucoup franchissent pour la première fois la porte des restos, des jeunes, des employés de la restauration. Vous entendrez leurs témoignages très marquants.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et donc ça y est, depuis ce matin, vous pouvez de nouveau vous faire couper les cheveux, acheter votre robe pour le réveillon ou retrouver le plaisir de déambuler dans votre librairie. Première étape du déconfinement avec la réouverture des commerces dits non essentiels. On imagine l'impatience des commerçants pour vous accueillir. Diane Berger, vous êtes dans le centre commercial des Quatre Temps à la Défense près de Paris. Est-ce que les clients sont au rendez-vous ?
Effectivement Fabienne, les clients sont venus en nombre, principalement pour commencer leurs courses de Noël. Nicolas par exemple s'est jeté à travers le rayon d'un magasin de décoration.
J'ai mis un réveil, je me suis levé un samedi pour pouvoir venir faire mes achats ici. Et là j'achète des décorations de Noël, il y a du rouge, il y a du vert, tout ce qu'il faut pour un joli sapin dans un esprit festif.
Du monde, mais aussi de nouvelles normes sanitaires, 8 mètres carrés par client minimum, donc il faut parfois faire la queue pour rentrer dans un commerce. C'est le cas de Laure, venue se racheter des produits de beauté.
Là ça fait 10 minutes à peu près. Mais ça avance rapidement et puis ils font attention au nombre de personnes qui rentrent dans le magasin, donc c'est rassurant aussi.
Et le nombre de clients réjouit les commerçants après un mois très compliqué. Eric, le responsable d'un magasin de sport, a retrouvé le moral.
On attend entre 15 et 20% de plus par rapport à un très bon samedi, donc le moral est bon. Les vendeurs, il faut aller les voir malgré les masques, ils sont contents, ils vont faire leur métier enfin, hein, parce que rester chez soi à la maison, faire du confinement et en activité partielle, c'est pas la vie de chacun d'entre nous, quoi.
Surtout, comme beaucoup de ses collègues ici, il estime que c'est presque le calme avant la tempête. Le pic de fréquentation devrait arriver cet après-midi.
Diane Berger à la Défense pour Europe 1 et parmi ceux qui attendaient aussi avec impatience de pouvoir ouvrir boutique, les coiffeurs. Maximilien Carlier, vous êtes vous dans le vieux Lille et dans le salon où vous vous trouvez, on ne chôme pas depuis ce matin avec des clients aux anges.
Oui, effectivement Fabienne, allongé sur un siège, François-Xavier a les yeux fermés, le bruit de la tondeuse dans les oreilles et il apprécie l'instant.
Enfin libéré, une masse de barbe bien trop importante qui devait être taillée le lendemain du reconfinement. Et qui malheureusement a dû attendre jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis en de très bonnes mains, un barbier très aguerri, et on passe une bonne demi-heure à être chouchouté.
On prend soin de soi et le salon ne désemplit pas, le téléphone n'arrête pas de sonner.
Merci, au revoir monsieur.
C'est la grosse période. Enfin, en tout cas, on espère que ça sera une grosse période pour nous, quoi. On verra bien comment ça se passe, mais pour l'instant, on n'a pas à se plaindre au niveau des rendez-vous.
Car avec la jauge des 8 mètres carrés, moins de clients, forcément. Pascal Deblicky, responsable du salon de coiffure.
Aujourd'hui, on ne travaille qu'avec un fauteuil sur deux. On ne peut pas accueillir autant de monde que d'habitude. Clairement, c'est pénalisant. Et toutefois, voilà, on va vraiment travailler 7 jours sur 7 jusqu'au 24 décembre.
Et avec des horaires d'ouverture étendus les premiers jours, 8h, 20h, pour tenter de rattraper un peu la perte de chiffre d'affaires liée au confinement.
Maximilien Carlier à Lille pour Europe 1. Bonjour Romain Mullier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1, président de Pickwick Toys et co-président de la Fédération des commerces spécialistes des jouets. S'il y a bien un secteur dans lequel on attendait, j'imagine, avec impatience cette réouverture, c'est bien le vôtre. Tout simplement, déjà, comment ça se passe depuis ce matin? Les clients, là aussi, sont au rendez-vous dans vos magasins?
Alors ça se passe bien, c'est un soulagement et satisfaction, et je pense que cette ouverture que nous préparons depuis 3 jours, on peut la qualifier de sereine. Les clients sont sereins, les collaborateurs sont sereins, et nous étions très attentifs et ça se passe bien.
Alors très attentifs, sereins, parce qu'il y a quand même ce protocole sanitaire renforcé. Vous allez ouvrir plus tard, comment vous respectez cette jauge de 8 mètres carrés qui paraît assez importante, avec peut-être des files d'attente à l'extérieur du magasin ?
Alors, il n'y a pas de file d'attente pour l'instant. Il y a des magasins qui ont été contrôlés et ça s'est bien passé. On a ouvert plus tôt, on fermera plus tard. Et un événement marquant aussi, c'est que les clients reviennent en magasin mais n'ont pas abandonné pour autant le e-commerce et le drive. Donc, c'est des canaux qui continuent à être utilisés. Et nous avons une nouveauté aussi qui s'est généralisée, c'est la prise de rendez-vous qui permet aussi d'utiliser les heures creuses avec plusieurs dizaines de clients par magasin qui prennent des rendez-vous tôt le matin ou en fin de journée, ce qui permet également de lisser les flux.
Alors, en rouvrant ce week-end, j'imagine que ça sauve Noël, parce que je vais juste rappeler un chiffre. Je crois que décembre, c'est vraiment un mois clé pour le secteur du jeu et du jouet. C'est un tiers du chiffre d'affaires annuel, je crois.
Exactement. C'est un quart du chiffre d'affaires plus la partie du chiffre d'affaires de novembre qui n'a pas pu être faite et qui va se reporter en grande partie. Oui.
Est-ce qu'il y a des risques de rupture, un souci justement de désorganisation dans l'approvisionnement à cause du Covid? Est-ce que le Père Noël va trouver toutes les commandes dont il a besoin?
Alors, tous les jouets sont commandés, réservés. Le sujet, c'était la disponibilité en magasin, puisque un jouet, c'est important que ça soit gros. Donc, on a des gros produits. On ne peut pas mettre toutes les ventes de décembre dans un magasin. Il faut livrer au fur et à mesure. Et si vous livrez 2 mois de chiffre d'affaires sur 1 mois, on a un problème de capacité logistique. Donc, d'où l'importance d'avoir une date de réouverture et une anticipation, ce que nous avions obtenu, ce qui a permis de mettre les produits en magasin au bon endroit en temps voulu.
Merci
donc,
beaucoup.
Il n'y aura pas de rupture.
Merci beaucoup Romain Mullier, président de Pick With Toys et co-président de la Fédération des commerces spécialistes du jouet, d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Et on entend cette sérénité et ce plaisir effectivement d'accueillir de nouveau des clients en magasin pour les jouets de Noël. Merci à vous. Notez aussi l'annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire, 200 000 euros. C'est le nouveau plafond d'indemnisation pour les entreprises qui restent fermées. Plafond doublé, annonce faite ce matin par le ministre de l'économie. Et puis, je vous le rappelle aussi, autre possibilité avec cette première étape du déconfinement, vous pouvez vous promener 3 heures dans un périmètre de 20 km, mais toujours avec votre attestation.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
La manifestation contre la loi sécurité globale a donc été finalement autorisée entre République et Bastille cet après-midi. Manifestation qui a pris une nouvelle dimension après la violente agression dont a été victime le producteur Michel Zecler. Plusieurs milliers de personnes attendues, certains redoutent la venue d'éventuels casseurs. Mathieu Bock, vous êtes dans le quartier pour Europe 1. Dans quel état d'esprit sont les commerçants qui sont sur le parcours du cortège et qui ont donc eux aussi rouvert ce matin ?
Eh bien, ils sont fatalistes, hein, car dans ce quartier, c'est quasiment toutes les semaines qu'il y a des manifestations. Un peu partout, les CRS se préparent et s'équipent dans leurs camionnettes. Gérard tient un magasin de cadeaux. Il espère ne pas avoir besoin de fermer.
On espérait que ça allait redémarrer. En plus, un samedi, et on n'est quand même pas loin de Noël et tout. Et il y a quand même des gens qui attendaient la réouverture. Et là, comme ça s'annonce... On verra ce soir ce qu'il y aura comme recette. S'il n'y a pas trop de monde, si c'est encadré et tout, on peut rester ouvert. Mais si ça s'agite, on va fermer systématiquement.
Alors il faut le dire qu'il n'y a pas foule hein, pour le moment autour de la place de la République. Peu de monde dans les magasins. Guillaume, qui tient une boutique de vêtements, aimerait lui aussi rester ouvert. Mais s'il doit fermer, ce ne sera pas une catastrophe, dit-il.
C'est pas de chance, mais on est solidaire par rapport à l'événement. Ce qui est gênant avec les manifestations, c'est que ça fait plutôt... peur aux touristes habituellement, et il n'y a pas de touristes. Donc ça ne changera rien, pour nous on fera quand même moins 40% de chiffres, moins 50% de chiffres. Quand il y a des affrontements, c'est plutôt en fin de journée sur les places. J'espère qu'il n'y en aura pas, je pense qu'il y en aura un peu en fin de manifestation. Mais sincèrement, je ne pense pas que ça nous trouble beaucoup aujourd'hui. Et encore une fois, quand c'est un sujet comme ça qui touche toute la communauté, on veut bien accepter de perdre un peu de chiffres sur la journée.
La manifestation doit partir dans quelques minutes. Elle doit se disperser place de la Bastille en fin d'après-midi. Place que les CRS ont déjà bouclée et autour de laquelle ils ont déjà érigé des barrières anti-émeutes.
Mathieu Bock, et c'est donc à la veille de cette manifestation hier soir qu'Emmanuel Macron est sorti de sa réserve pour réagir à l'agression inacceptable, a-t-il écrit, du producteur Michel Zecler au Aurélie Herbemont.
Oui, impossible pour le chef de l'État de ne pas s'exprimer dans cette période de tension. Dès jeudi soir, l'Élysée avait fait savoir qu'il était très choqué par les images, mais une intervention directe a toujours plus de poids. Alors si Emmanuel Macron ne parle pas de violence policière, pour marquer que l'institution n'est pas en soi violente et que les violences ne sont le fait que de certains policiers, il met des mots sur le passage à tabac de Michel Zecler. Agression inacceptable, vous le disiez, des images qui nous font honte. Et de préciser, la France est un pays d'ordre et de liberté, pas de violence gratuite et d'arbitraire. Le président réclame au gouvernement des propositions pour lutter plus efficacement contre les discriminations et surtout rétablir le lien de confiance entre les Français et la police. Emmanuel Macron qui exige l'exemplarité des policiers et l'exemplarité des citoyens à l'égard des policiers, eux-mêmes régulièrement ciblés, un « et en même temps » qui sera mis à l'épreuve dès cet après-midi avec les manifestations contre la loi Sécurité globale.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Et pour David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, ces mots d'Emmanuel Macron étaient plus que nécessaires.
Ce sont des propos extrêmement importants et qu'il faut entendre à la fois du côté police et à la fois du côté de la population, et je dirais même de la part de l'ensemble de la classe politique. Il faut que le calme revienne et qu'un climat apaisé revienne afin qu'on laisse à la justice le soin de sanctionner les policiers qui ont fauté.
Alors David Lebars, c'est dans ce contexte que se déroulent aujourd'hui des dizaines de rassemblements contre la loi Sécurité globale. Est-ce que vous craignez des débordements ?
Aujourd'hui, cette manifestation va être regardée de très près. Ce n'est pas nouveau, simplement c'est une manifestation qui arrive dans un contexte très tendu et qui fait suite à des débats passionnés, voire hystériques sur la loi Sécurité globale et également à des incidents commis par certaines personnes dans les forces de l'ordre. Donc il faut garder un sang-froid absolu, mais c'est valable évidemment du côté des forces de l'ordre, mais c'est surtout valable du côté de ceux qui vont vouloir faire en sorte de provoquer et que ça dégénère.
Et puis autre réaction, Frédéric Lagage, délégué général du syndicat de police Alliance, qui juge irresponsable le niveau de sécurisation de la manifestation cet après-midi à Paris. 40 000 personnes attendues, dont des gilets jaunes, des black blocs et seulement 2 000 membres des forces de l'ordre. C'est préoccupant et incompréhensible, dit-il. Notez que le préfet de police Didier Lallement demande, lui, aux policiers sous son autorité de tenir la ligne républicaine jusqu'au bout. En dévier, écrit dans une lettre ce matin, le préfet de police s'est ébranlé le pacte de confiance qui nous unit à nos concitoyens.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
L'actualité sportive avec le PSG qui affronte Bordeaux ce soir au Parc des Princes. Match à huis clos, mais pas sans ambiance, Julien Froment.
À 21h, au coup d'envoi, voilà ce que les 22 joueurs de ce Paris Saint-Germain-Bordeaux entendront une fois sur la pelouse. Des chants des ultras parisiens du virage Auteuil, comme s'ils étaient là, debout dans les travées, à s'époumoner pour soutenir leur équipe. Une ambiance, hélas, artificielle, testée il y a une semaine de cela lors du PSG Lyon féminin, approuvée par la direction du club, malgré des tribunes vides. Donc, cette bande-son a un côté rassurant, voire galvanisant pour les joueurs, Denis Troche et préparateur mental.
Pour la confiance en soi, ou pour la confiance, la grande confiance de chacun d'entre nous, on a besoin de repères, retrouver quelque chose qui ressemblera à ce que l'on va vivre. Quelque part, on a l'impression d'être un peu nu quand on est sans public et sans son. Eh bien, là, on se rapproche d'un match normal.
L'Olympique de Marseille et Rennes en ont déjà fait l'expérience avec plus ou moins de succès. Question de goût, les acteurs en tout cas sont unanimes. Les enceintes ne remplaceront jamais la ferveur des supporters et le spectacle des tribunes.
Et puis des nouvelles des skippers du Vendée Globe avec Charlie Dalin qui fait toujours la course en tête, qui vient d'entrer dans les 40e rugissants. Bien rien que le mot, ça fait frémir.
Ça y est, je suis dans les 40e rugissants. Ils rugissent presque. C'est pas encore la tempête, mais ça va pas tarder. Ça, il n'y a pas de souci, je vais avoir ma dose. Alors, grand changement d'ambiance, hein, forcément, à bord d'Apivia. Ça fait deux semaines que je vis jour et nuit en short t-shirt. Là, j'ai remis sous-couche, polaire. Je navigue avec les portes du cockpit fermées. Voilà, le vent est là. Voilà, y a énormément d'oiseaux de mer là, qui suivent le bateau. Ça n'a vraiment rien à voir, quoi.
Charlie Dalin, dont vous retrouvez le carnet de bord tous les samedis sur Europe 1.fr et le Vendée Globe, on en reparlera dans tout terrain. Car si les skippers naviguent en solitaire, eh bien vous l'entendrez, ils sont aussi très bavards. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi. Un temps toujours instable près de la Méditerranée, Valérie Darmon, surtout sur les Pyrénées-Orientales et la Corse.
Absolument, placé, vous le savez, en alerte orange, pluie, inondation et orage. Hein. Météo France surveille les cumuls à cause des risques de ruissellement. Et cet après-midi, après une accalmie ce matin, les pluies orageuses vont se renforcer sur l'île de Beauté. Les heures à venir seront les heures les plus critiques. En fin de journée, cet épisode de forte précipitation prendra fin sur le Roussillon et sur la Corse, ce sera à partir de 23h et surtout demain matin. Nous devons cette situation à la dépression qui circule en Méditerranée entre les Baléares et la Sardaigne, et demain elle s'évacuera. Sur le reste du pays, le temps va rester calme sous l'influence de conditions anticycloniques. Il continue de faire très beau sur la moitié nord et entre les deux, c'est-à-dire entre l'Aquitaine et le Lyonnais, c'est voilé et toujours sec. Les températures, elles sont relativement douces pour la saison, surtout dans le sud-ouest, entre 8 à Nancy et 18 degrés à Biarritz.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
Des images qui nous font honte, voilà pour la réaction sur Facebook d'Emmanuel Macron après l'agression du producteur Michel Zecler. Agression inacceptable pour le chef de l'État qui demande au gouvernement de lui faire rapidement des propositions pour lutter efficacement contre toutes les discriminations. Bonjour Michel Viviorca.
Bonjour.
Sociologue, auteur notamment de La France raciste et plus récemment de Pour une démocratie de combat. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Vous qui scrutez notre société, qui avez travaillé dans les années 90 avec des policiers sur la question du racisme justement, on y reviendra d'ailleurs pour voir si une telle étude vous semblerait possible et surtout nécessaire aujourd'hui. D'abord, comment vous expliquez qu'on arrive à ces images de la honte, pour reprendre l'expression du président de la République ?
Alors, ce sont des images, donc il faut d'abord dire que notre société dispose, avec les caméras de surveillance, avec les Internet, etc., avec toutes les nouvelles technologies, de la capacité de produire des images. C'est ce qui a d'ailleurs alimenté le fameux document numéro 24 sur la sécurité globale, le fameux article 24 sur la sécurité globale, qui a fait tellement couler d'encre ces derniers temps. Donc il y a donc les nouvelles technologies. Et puis il y a évidemment le problème des violences racistes policières. J'utilise les trois mots. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas dire que c'est trois cas isolés et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre par ailleurs, sinon de temps en temps, comme dit Monsieur Darmanin, des gens qui déconnent. On ne peut pas dire ça. Mais on ne peut pas dire non plus la police est raciste et violente. Tous les policiers ne sont pas racistes et violents. Le problème, il faut le poser un tout petit peu autrement. Il y a d'un côté une culture policière perméable au racisme, ça je l'ai observé et beaucoup de gens l'observent, perméable au racisme, mais pas un racisme qui devient passage à l'acte, sinon exceptionnellement. Et donc le vrai problème, c'est comment on passe d'une culture qui a été perméable au racisme et qui le demeure, comment on passe de ça à des actes exceptionnels, heureusement, aussi graves que celui dont nous parlons. C'est ça pour moi le problème, dans un contexte, tout le monde le sent bien, qui est un contexte d'immense crise. On ne parle même plus du virus quand on parle des manifestations d'aujourd'hui, tellement on est dans la crise politique, dans la crise des libertés, dans des grands problèmes. Et si vous permettez, je dirais que le discours du chef de l'État est un très beau discours. Je crains qu'il se révèle mythique, c'est-à-dire qu'il résolve de manière imaginaire des problèmes qui ne se résolvent pas dans la réalité. Et c'est ça le problème. C'est pas le discours du chef de l'État qui fait problème, pas du tout, mais c'est tout ce qui se passe en dessous dans le monde politique. Un Parlement qui vient d'être bafoué. On a dit que finalement, ce fameux article 24...
Là, vous parlez
24,
de la réécriture de l'article 24 avec effectivement Jean Castex qui avait demandé la mise en place d'une commission pour réécrire cet article 24, évidemment, sans que ce soit réécrit directement par les parlementaires. Effectivement, les deux présidents des assemblées, Gérard Larcher et Richard Ferrand, qui sont montés au créneau pour dire que non, ça devait évidemment rester du ressort des parlementaires.
Tout à fait. Et donc, on est dans un pays où, si vous voulez, entre l'Élysée, entre le chef de l'État et toutes les institutions intermédiaires, que ce soit le Parlement, que ce soit les maires, que ce soit les municipalités, que ce soit les syndicats, on a le sentiment que le courant passe peu, passe mal, passe très difficilement. Il y a une crise institutionnelle et politique. Alors, c'est très bien de faire un discours de fermeté et d'apaisement, mais quand on a des ministres ou des parlementaires qui soufflent sur le feu, sur les braises, qui poussent le pays dans un sens, dans un autre, tout ça crée une situation très, très tendue. Je suis vraiment très, très préoccupé parce que ces événements s'inscrivent dans un ensemble beaucoup plus large où on voit se profiler d'un côté des tendances à l'autoritarisme, il faut bien le dire,
C'est ce que vous dénonciez dans une tribune dans Libération, effectivement, cette semaine. Je reviens sur ce travail que vous avez fait dans les années 90. Vous avez travaillé sur le racisme dans la police. Vous parlez de cette perméabilité, hein, effectivement, avec des policiers qui étaient volontaires et avec l'accord du ministre de l'époque. Est-ce que ce qui vous avait marqué à l'époque, vous me l'avez dit, c'est que les policiers disaient qu'ils n'étaient pas entrés racistes dans la police, mais qu'ils étaient devenus. Est-ce qu'une étude pareille serait nécessaire ou possible aujourd'hui, justement?
Il faut faire des recherches, mais là aussi, pour que des recherches comme celle-ci soient possibles, il faut qu'il y ait de la confiance entre le pouvoir et les sciences sociales. Je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, je suis stupéfait de voir comment la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a traité les efforts que je faisais en ce qui concerne justement le développement de recherches comme celle-ci. J'ai créé une plateforme il y a un an et demi pour étudier ce genre de questions. Bon, je crois pouvoir vous dire que cette plateforme aujourd'hui a bien des difficultés à exister parce que le climat n'est pas du tout favorable aux sciences sociales.
Est-ce que vous pensez aussi que les policiers, justement, il serait important de les questionner, de leur parler, d'ouvrir le débat à l'intérieur de l'institution ?
C'est fondamental. L'expérience que j'ai de la police, c'est que lorsque l'on gagne la confiance des policiers, lorsqu'ils comprennent bien qu'une équipe de recherche ne vient pas les juger, mais vient essayer de comprendre avec eux les questions auxquelles ils sont confrontés et les réponses qu'ils y apportent, eh bien, tout change. Et on peut coproduire des connaissances. Et la coproduction de connaissances, c'est quelque chose qui peut éclairer l'action publique. Donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses à faire. Mais bien entendu, il faut restaurer la confiance dans tous les domaines. Moi, j'étais très content d'entendre le chef d'État parler de confiance. Mais vous comprenez, s'il n'y a pas de confiance entre le monde de la recherche en sciences sociales, qui est vent debout hein, en ce moment par rapport aux politiques gouvernementales et le monde du pouvoir, c'est difficile d'envisager des belles recherches. Certaines seront possibles, mais pas toutes. S'il n'y a pas de confiance entre le monde de la police et le monde de la recherche, c'est la même chose. Tout ça, ça doit être restauré, c'est possible, mais il faut des efforts concrets et pas, si j'ose dire, des paroles verbales.
Et donc, quand on entend Emmanuel Macron qui parle d'une police exemplaire avec les Français, mais aussi des Français exemplaires avec les forces de l'ordre, c'est ce « en même temps » qu'il va falloir concilier.
Oui, mais tout ça, ça ne se décrète pas. Tout ça, ça se fabrique. Tout ça prend du temps. Et là, on rentre dans un autre problème, qui est un problème de temporalité. Il y a des urgences. Il faut évidemment répondre chaque jour à des urgences parce qu'il y a un jour, il y a une manifestation, un autre jour, il y a un scandale comme celui de ce lynchage ou ce quasi-lynchage. Bon, chaque jour, il y a des urgences. Et en même temps, les problèmes dont nous parlons, vous et moi, maintenant, c'est des problèmes qui exigent des efforts sur la durée, qui ne se régleront pas en 5 minutes ou en 3 jours. Donc, si vous voulez, il faut une vision générale et pas simplement des déclarations sur fond de vie politique assez déstructurée qui part un peu dans tous les sens.
Merci beaucoup Michel Viviorca. Je rappelle, sociologue, auteur notamment de La France raciste et plus récemment de Pour une démocratie de combat, d'avoir échangé avec nous ce midi sur Europe 1. Et puis vous le savez, à Trailer, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Il y a 35 ans, Coluche lançait sur les ondes d'Europe 1 son appel pour les Restos du Cœur. Et vous allez l'entendre à travers les témoignages, ces restos sont plus que jamais d'actualité. Europe 1.